Quoi de neuf dans l'IMO ?
radio-imo.fr.
Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs.
Radio IMO, l'information immobilière.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la radio de l'immobilier qui est Radio IMO. Nous avons le plaisir de recevoir Antoine Cellier, responsable national promotion privée chez GRDF. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Antoine, nous vous avions reçu au début de l'été pour parler de la réglementation environnementale 2020, la fameuse RE 2020, mais les décrets arrêtés n'étaient pas encore sortis, encore publiés. Cela a été fait finalement au cours de l'été. Pouvez-vous nous en dire plus tout de suite ? Quelles sont les dates d'application suivant les marchés, etc. ?
Voilà, oui, donc effectivement, les deux textes sont enfin sortis cet été. Donc il y a le décret, un décret, un arrêté, qu'on appelle le décret et l'arrêté exigence, puisque dans une réglementation, par définition, il y a beaucoup d'exigences.
Tout à fait.
Là, c'est le cas.
Donc, on a
un décret qui est sorti le 29 juillet. Et l'arrêté, lui, est sorti le 4 août. Date du décret, la date de l'arrêté. Bon, ils étaient publiés quelques jours plus tard, mais enfin voilà. Donc on a un décret, on a un arrêté, et le décret, il est très important parce que il confirme les dates d'application de cette nouvelle réglementation. Donc, pour les logements, 1er janvier 2022, date de dépôt de permis de construire, l'ARE 2020 s'applique.
Logement collectif,
maison individuelle. Okay. Alors, il y a une petite subtilité sur les maisons individuelles. Si jamais vous signez un contrat de commercialisation de maison individuelle, qui n'est pas un contrat VEFA.
Le fameux CCMI.
Voilà, le fameux CCMI. Là, il y a une petite dérogation. Si vous avez signé un CCMI avant le 1er octobre 2021 et que le dépôt du PC se fait un petit peu plus tard, ça, c'est bon, ça passe.
D'accord.
Donc, il y a une petite dérogation sur les CCMI. Bon, ça, c'est des petits ajustements. Mais sinon, la date d'application, c'est bien le 1er janvier 2022. Et dans ce décret, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que pour les bureaux et l'enseignement, c'est le 1er juillet 2022. Ça y est, c'est gravé dans le marbre. Donc, les bureaux et l'enseignement. Et enfin, il y a aussi une autre date.
L'enseignement, c'est les écoles, c'est...
Voilà, tout ce qui est établissement lié à l'éducation, les écoles principalement, crèches, etc. Et après, l'autre date qui est intéressante à retenir, c'est celle du label haute performance environnementale, ce qu'on appelle le label RE 2020. Ah. Et dans ce décret, il est évoqué ce label qui serait en application à partir du 1er janvier. Voilà, au 1er janvier 2023.
D'accord.
Donc c'est le label RE20, dont les contours ne sont pas définis à l'instant où je vous parle, puisque ça c'est en cours on est dans la phase de concertation avec les acteurs de la filière pour savoir qu'est-ce qu'il y aura dans ce fameux label. Donc voilà, donc ce décret il nous donne un peu toutes ces dates, il confirme bien que la RE20 c'est 6 indicateurs. Là où, là, dans la RT12, on avait 2 indicateurs avec des exigences. Là, nous en avons 6. Ça, c'est confirmé. Donc, avec ces 6 indicateurs, on a des seuils qu'il faudra respecter. On a aussi des modulations, parce que selon les zones climatiques, selon la taille du bâtiment, le seuil module. Et enfin, on a la dérogation sur la maison individuelle, parce qu'il y a une dérogation sur la maison individuelle, où en fait, il y a un seuil carbone qui s'applique pour les maisons qui sont construites sur des zones d'aménagement. Si le permis d'aménager a été octroyé avant le 31 décembre, jusqu'au 31 décembre 2023, jusqu'en 2023, vous pouvez déposer un permis de construire avec un seuil carbone qui est plus haut que le seuil carbone qui s'applique en 2022. Donc, pour interpréter un peu ce sujet qui a l'air très technique, c'est très simple. Si vous construisez une maison individuelle sur une zone d'aménagement dont le permis d'aménager a été accordé avant le 31 décembre de cette année, si vous déposez le permis de construire avant fin 2023, vous pouvez mettre une chaudière et un chauffe-eau thermodynamique.
D'accord.
Voilà. Si vous mettez chaudière plus chauffe-eau thermodynamique, vous respectez les seuils de la réglementation. Et ça, chaudière plus chauffe-eau thermodynamique, aujourd'hui, ça se fait déjà beaucoup dans les maisons individuelles, ça marche très bien. Mais voilà. Donc ça, c'est une dérogation. Parce que le seuil qui s'applique pour les maisons, à partir du 1er janvier 2022, il est beaucoup plus bas. Et là, du coup, les solutions sont nouvelles. Là, on va vers l'hybridation des systèmes.
Donc là, voilà. On est déjà sur la partie impact, impact de la réglementation sur le logement neuf.
Oui, alors avant de venir sur les impacts, ouais. Excusez-moi, je voulais juste vous préciser. Donc il y a le décret et il y a l'arrêté.
D'accord.
Alors l'arrêté, pour nos auditeurs mathématiciens, je leur conseille la lecture de cet arrêté qui fait 1300 pages et qui détaille la méthode de calcul de la RE20. Voilà. Donc voilà, pour les passionnés, pour les longues nuits d'hiver, voilà, il y a de quoi lire dans cet arrêté. Ça explique par le menu détail toute la méthode de calcul. Voilà. Donc nous avons maintenant les textes qui permettent à la filière du bâtiment de travailler.
De travailler. Et donc cette nouvelle réglementation. Alors, quel impact cette réglementation environnementale 2020 ?
Alors les impacts maintenant, on commence à en voir les contours. Donc premier impact, c'est l'impact, on pourrait résumer à trois impacts, c'est en fait on aura un bâtiment plus sobre, plus renouvelable et plus décarboné. Alors plus sobre, en fait, c'est le besoin bioclimatique. Il y a un indicateur dans la réglementation qui est le BBO, le besoin bioclimatique. Il a été renforcé dans cette réglementation. Donc on va aller vers des bâtiments plus isolés par rapport à la RT12. Donc plus sobre, moins de consommation d'énergie. Qui dit moins de consommation d'énergie dit moins de carbone et dit bien sûr moins de dépenses sur les factures énergétiques. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les bâtiments vont être mieux isolés. L'isolation à tout niveau, dans les murs, les plafonds, les planchers, les menuiseries. Mmh. Enfin voilà, il y aura un vrai effort là-dessus. Mais après, le confort, c'est l'hiver. Ça, c'est pour le confort d'hiver. Mais là où c'est intéressant, c'est que la réglementation introduit aussi la notion de confort d'été. Et il faut aussi travailler sur des leviers de conception du bâtiment qui font qu'en plein été, quand vous aurez le soleil qui va taper dans votre baie vitrée parce que vous êtes orienté plein sud et que vous vous retrouvez comme dans un four, il faut absolument éviter cette situation. Et donc là, ce qui est préconisé par la réglementation, c'est de mettre des dispositifs sur le bâtiment qui empêchent le réchauffement solaire l'été. Donc on pense à des persiennes, des casquettes solaires. Enfin voilà, il y a une incitation à mettre des volets roulants qui se déclenchent automatiquement, enfin etc. Donc tous ces leviers sont encouragés, c'est ce qu'on appelle le confort d'été, mais avec des leviers bioclimatiques, c'est-à-dire des leviers un peu low-tech, pas des choses compliquées, qui permettent tout de suite de gagner des degrés en été dans l'appartement. Donc ça, c'est le premier effet, c'est des bâtiments plus sobres. Plus sobres l'hiver, plus sobres l'été. Le deuxième effet, c'est les énergies renouvelables. Les réglementations, c'est le sens de l'histoire, c'est la transition écologique. Il faut développer, favoriser les énergies renouvelables. Donc on le retrouve dans cet RE20. Donc l'idée, c'est que petit à petit, les énergies fossiles et nucléaires vont disparaître. Le radiateur, le bon vieux radiateur grippin n'est plus de ce monde. Et après, nous, la chaudière, elle a toujours sa place parce qu'elle est très efficace. Mais on voit qu'il faut commencer à mettre du gaz vert dedans ou après hybrider avec d'autres solutions. Donc ça, c'est aussi le sens de l'histoire, c'est de développer les énergies renouvelables. Et enfin, le troisième, en fait, c'est le carbone. Donc il faut décarboner. En fait, décarboner un bâtiment, ça veut dire quoi ? Eh ben, il y a deux moments forts où vous émettez beaucoup de carbone. C'est au moment de la construction. Donc là, on va travailler sur les matériaux, faire en sorte que les matériaux soient les moins, la fabrication de ces matériaux ne dépense pas beaucoup d'énergie. Donc voilà. Et après, il y a le carbone lié à l'énergie. Alors le carbone lié à l'énergie, c'est simple. La réglementation dit, on va regarder pendant 50 ans le carbone que va émettre le bâtiment à cause de la consommation d'énergie. Et cette consommation pendant 50 ans, on ne veut pas qu'elle dépasse un certain seuil. Donc du coup, ça nous donne quoi, in fine, les impacts ? Ça va nous donner des bâtiments très sobres en énergie. S'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça. C'est vraiment, on voit bien qu'il faut absolument...
Ça m'apparaissait déjà sobre.
Voilà, on va faire encore plus sobre. Et une fois que vous avez fait très sobre, et ben là-dedans, vous allez introduire des énergies renouvelables.
D'accord. Et alors, les solutions gaz, là, pour répondre aux exigences réglementaires ?
Alors, les solutions gaz, donc, elles existent. En fait, contrairement à tout ce bad buzz qu'il y a eu autour de...
Énorme.
Une interdiction du gaz. En fait, quand on lit les textes et qu'on regarde et qu'on simule, qu'on fait des simulations, les solutions gaz, elles sont toujours présentes. Pourquoi ? Bah parce que on est dans des bâtiments bien isolés, donc les consommations diminuent, donc déjà on émet beaucoup moins de carbone. Les solutions gaz classiques en logement collectif, fonctionnent, chaudières individuelles, chaudières collectives. On peut coupler ces chaudières avec du solaire thermique. On peut très bien mettre une PAC à absorption gaz. Toutes ces solutions fonctionnent en RE20. En maison, par contre, il faut hybrider la chaudière gaz avec une PAC électrique.
D'accord.
Donc l'hybridation, ça c'est comme l'automobile, c'est le meilleur des deux mondes. Quand un des deux systèmes fonctionne moins bien ou qui se dégrade en termes de rendement, ben c'est l'autre énergie qui prend le relais. Donc sur la maison, on a cette solution et sur le logement collectif, on a nos solutions classiques. Mais en 2025, on a des nouveaux seuils qui s'appliquent.
Un nouveau cap.
Voilà. Donc 2025, c'est un nouveau cap. Donc là, en fait, nous, on voit les choses. 2025, c'est un défi, mais c'est le défi de la transition énergétique et on le connaît. Hein, ce défi, c'est pas nouveau pour nous. Donc nous, clairement, par rapport à ce défi de 2025 pour aller encore plus loin dans le bas carbone et développer les énergies renouvelables, pour nous, il y a deux voies. Il y a une voie que j'appellerais plutôt high-tech et une voie low-tech. Donc la voie high-tech, c'est l'hybridation des systèmes. Tout comme dans la maison où on hybride des pompes à chaleur avec des chaudières, dans les appartements, on va hybrider les systèmes. Donc dans les appartements, il y a quand même un enjeu de place, d'intégration dans l'appartement. Donc on travaille là-dessus avec les industriels pour faire en sorte que les solutions, elles soient performantes, compétitive, mais aussi qu'elle s'intègre bien dans un espace, et on l'a vu avec la crise, l'espace, c'est important dans un logement. Donc on travaille là-dessus, c'est la voie un peu high-tech, il y a des projets de R&D qui sont en cours avec les industriels, et puis après il y a la voie low-tech. La voie low-tech, et ben, en fait, c'est de rester avec une chaudière, mais cette chaudière elle brûle du gaz vert.
Voilà. Donc le gaz vert dans la réglementation, ça a quelle place aujourd'hui?
Alors ça, c'est la grande déception. C'est notre grande déception par rapport à l'aéro 20.
Partagez-le, je vous dire, parce que je suis un très fort défenseur du biométhane, notamment.
Oui, tout à fait. Ben, les gaz verts n'est pas pris en compte dans cette version des textes. N'est pas pris en compte et c'est bien dommage, parce que c'est une énergie renouvelable qui est en plein développement. Depuis 3 ans, le nombre d'unités de production en France de gaz vert a été multiplié par 5. À la fin de l'année, on aura 314 sites en France qui produisent dans des fermes, chez des agriculteurs français qui méthanisent des déchets agricoles. On a une production dont d'un 350 sites, et la production de gaz de ces 350 sites, elle est équivalente à plus d'un million de logements neufs.
Donc, énorme.
C'est déjà une réalité.
Oui.
C'est dans le paysage. D'ailleurs, si pendant les vacances, peut-être, vous êtes baladé un peu dans nos belles provinces, on voit de plus en plus ces espèces de cloches apparaître. Ces cloches, ce sont des méthaniseurs. Et on en voit de plus en plus dans nos régions.
Je dis peut-être une ineptie, à ce moment-là, vous me corrigerez avec plaisir. C'est lorsqu'on parle en ce moment d'une hausse incroyable du gaz. Est-ce que cette hausse aurait lieu s'il y avait du biométhane partout?
Ah, alors ça, c'est une question intéressante. En fait, c'est sûr que si on produit nous-mêmes notre propre énergie, on n'est plus dépendant des marchés mondiaux. Parce que le prix de l'énergie aujourd'hui, s'il flambe, c'est parce qu'il y a un marché mondial.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que là, on se met dans une perspective où on produit nous-mêmes notre énergie. Donc c'est sûr que là, l'énergie, elle est beaucoup moins volatile. Parce que vous n'êtes pas dépendant de ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis. Donc c'est vrai que votre prix d'énergie, il est moins volatile, mais attention, l'énergie renouvelable est une énergie plus chère que l'énergie fossile.
D'accord.
Donc c'est pour ça que la sobriété, c'est important. Demain, il va falloir qu'on consomme mieux et moins. Donc du coup, oui, le développement du gaz vert, c'est aussi se détacher de ces fluctuations de marché qui sont parfois très, très problématiques.
Merci pour cette note d'optimisme. Merci Antoine pour tous ces éclairages et je vous dis à très bientôt sur Radio Immo.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Merci Monsieur Bureau. Merci, au revoir.
Quoi de neuf dans l'Immo?
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs.
Radio Immo, l'information immobilière.